homophobe à coups de pistolet. Et puis promenons-nous dans les bois. Dans cette histoire, on retrouve Philippe, la gorge tranchée, sur un chemin où il se promenait seul avec son chien. Donc toute une histoire dans ces deux histoires que Christophe vous racontera. Et puis bien évidemment, tout à l'heure, vous retrouverez Ombline Roche et Alexandre Lemaire dans Bonjour, du lundi au vendredi, de 5h à 7h. C'est le tour de l'actualité, le premier tour de l'actualité que vous offre la rédaction d'Europe 1. Bonjour, c'est avec Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Je vous souhaite une bonne nuit, dormez bien et je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure. Je vous laisse avec Marlène et les programmes de la nuit parce que Europe 1, c'est 24 sur 24 avec vous. Et puis n'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Alors à demain, salut.
Merci Olivier, allez rentrer bien, on vous souhaite une excellente nuit. Europe 1, il est 1h. L'heure de retrouver Christophe Ondelat. Alors, durant deux jours, il a choisi de nous raconter des histoires issues du livre « Les morts ont la parole » d'un célèbre médecin légiste belge qui s'appelle Philippe Boxo et dans lequel il raconte quelques-unes des affaires sur lesquelles il a eu à travailler. Et on va donc commencer avec l'histoire de cet homme qui aurait donné sa femme au cochon pour qu'il la mange. Voici donc Ondelat raconte.
Europe 1. Christophe Ondelat.
Allô, docteur? Un fermier aurait jeté sa femme au cochon. Qu'est-ce qu'on fait?
Mon labo s'attendra à tout. Être rodé par des années de métier, il y a des coups de fil qu'on n'oublie jamais. Et celui-là en fait partie. Alors voilà comment les choses se présentent. Jean et Joseph sont fermiers et voisins. Et pour une histoire de terre qu'ils se disputent, ils se détestent. Et un jour, Joseph appelle la police. Il prétend avoir vu Jean, au loin, tirer le corps d'une femme et le jeter dans l'enclos au cochon.
J'ai vu faire, puisque je vous le dis. Il a donné sa femme à manger à ses cochons. Mais enfin, puisque je vous dis que je l'ai vu.
Et donc, la police arrive sur place. Il faut que je vous dise que Jean, qui est donc censé avoir donné sa femme à manger à ses gorées, n'est pas un inconnu pour la police locale. Il a plusieurs fois été menaçant, voire agressif, avec des promeneurs qui passaient près de sa ferme. Et puis, il est sujet à des troubles psychiques. Il est suivi par un psychiatre. Bref, il a un passé. Vous pouvez nous dire où est votre femme, monsieur? La Jeanne? Oh ben je sais pas. Elle a dû partir. Partir? Elle n'a pas pu partir en voiture, elle ne conduit pas. Elle n'a pas de permis. Et ses papiers d'identité sont toujours là. Vous pouvez nous conduire à votre porcherie, monsieur? Ma porcherie? Oh, pas de problème. Suivez-moi. Dans l'enclos à cochons, pas de sang, pas de morceaux de chair et pas non plus de lambeaux de vêtements. Les policiers font le tour de la maison, pas de traces de lutte, pas de sang non plus. Mais une réalité, la Jeanne a disparu. Mais enfin, monsieur, où est-elle? Oh ben... Il a l'air complètement perdu. Et d'ailleurs, il finit à l'hôpital psychiatrique. Et c'est donc là que le substitut du procureur m'appelle.
Allô, docteur? Un fermier aurait jeté sa femme au cochon. Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, écoutez, je pense qu'il faudrait faire abattre le plus gros cochon, le plus vite possible, si possible immédiatement, pour stopper la digestion, de sorte que je puisse encore trouver quelque chose dans l'estomac qui me permettrait d'identifier au moins la personne, faute de pouvoir identifier la cause du décès. L'abattre, car on n'a plus le temps d'attendre le passage d'un vétérinaire pour endormir le cochon et lui faire un lavage gastrique pour récupérer le contenu de l'estomac. Et le plus gros cochon, parce que il n'y a pas de mystère. Si t'es gros, c'est que tu bouffes. Sauf maladie, bien entendu. C'est donc chez le plus gros que j'ai le plus de chances de trouver des morceaux et en plus grande quantité. À vrai dire, les policiers ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'abattre le cochon. Mais ils changent d'avis quand je leur explique l'alternative. C'est-à-dire que vous le tuez, ou il faudra fouiller demain dans les déjections du cochon pour tenter de retrouver des dents ou des cheveux de la dame qui a disparu.
Des dents et des cheveux, vous dites ? Dans les déjections ?
Oui. Oui, c'est à peu près tout ce qu'un cochon ne peut pas digérer. Et c'est un élément intéressant pour nous parce que ça nous permettra de faire une identification génétique. C'est absolument nécessaire.
Bon, eh bien, écoutez, on va l'abattre, hein ? On va l'abattre.
Par chance, chez les policiers, il y a un ancien abatteur de bétail. Sitôt dit, sitôt fait. En route pour la ferme, j'appelle Philippe Schutters. C'est un vétérinaire. Dites-moi, docteur Schutters, où se trouve l'estomac chez un cochon ?
Oh ben exactement comme chez les humains, docteur.
D'accord. Ça va me simplifier grandement les choses. Arrivé sur place, il y a une certaine effervescence. Les cochons survivants ont été déplacés dans un autre enclos, et dans l'enclos d'origine devenu scène de crime, il ne reste que leur copain mort. Bonjour docteur. Le labo vient de terminer les prélèvements dans l'enclos. C'est à vous de jouer. Et donc je m'y colle. J'ouvre l'estomac du cochon, et j'y trouve de nombreux morceaux dont les plus gros font entre 3 et 5 cm cubes. Impossible de dire si ce sont des morceaux humains ou pas. J'en prélève donc pour les soumettre à l'analyse ADN. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas beaucoup de morceaux, hein. Pas facile de dire si la victime éventuelle a été jetée morte ou vivante dans l'enclos. Ni même de quoi elle est morte, hein. Pendant ce temps-là, le labo inspecte toute la maison. Il ne trouve rien qui suggère qu'une femme a été tuée à l'intérieur. En attendant les résultats du labo, le mystère reste entier. Quelque temps plus tard, Jean, le fermier, qui avait filé à l'hôpital psychiatrique, sort de sa torpeur.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ma jeune morte et que je l'ai jetée au cochon, je sais pas pourquoi.
Et donc je suis requis par un juge d'instruction avec un psychiatre pour prendre connaissance du dossier médical de Jean et évaluer la crédibilité de ses dires.
Quand il a été admis à l'hôpital, il était sujet à une bouffée délirante aiguë. C'est un trouble psychique majeur. Il en est sorti aujourd'hui. Mais ça peut expliquer un comportement particulier dans les heures qui ont précédé.
Autrement dit, il a très bien pu donner le corps de sa femme à manger au cochon. Pour vous dire la vérité, à ce stade, et dans l'attente des résultats des analyses ADN, personne ne croit vraiment à ce scénario. Ni les policiers, ni le procureur. Quelques jours plus tard, le labo ADN rend son rapport.
Les morceaux que vous avez prélevés dans l'estomac du cochon sont bien des morceaux du corps de la fermière disparue, prénommée Jeanne.
Sauf qu'en raison des problèmes psychiatriques du monsieur, l'affaire s'arrête là. Je ne peux pas dire quelle est la cause du décès de Jeanne, ni si elle était vivante ou morte quand Jean l'a jetée au cochon. C'est frustrant. Car finalement, à part prouver que le corps de Jeanne a bel et bien été mangé par des cochons, rien de concluant n'est sorti de mon expertise. Et moi, ça me laisse un goût amer. Parce que la médecine légale, au bout de ses capacités, n'a pas été en mesure d'apporter des réponses aux questions qui se posaient et qui se posent toujours. n'imaginez pas que les agressions sur des corps humains par des animaux se limitent aux cochons. Bien d'autres animaux sont également en lice, comme les sangliers, les chiens, les chats et les rats, pour ne citer que les plus courants. Les sangliers s'attaquent aux corps surtout quand ils sont morts, délaissés, dans un bois. En général, on retrouve le squelette éparpillé façon puzzle sur une large zone. Ce qui démontre qu'ils emportent des morceaux détachés du corps pour les manger à l'aise, à l'écart, sans doute loin des autres. Certaines races de chiens aussi ne sont pas en reste. Et d'ailleurs, voici une petite histoire de chien. Un homme décède en faisant son jardin, tandis que ses deux chiens, des Doberman, l'accompagnent. Après plusieurs heures d'absence, sa femme part à sa recherche. Elle le trouve inanimé à côté du potager. Elle appelle les secours. Il est mort. Il est mort et il n'a plus de main. Ce qui me vaut un appel du procureur.
Dites-moi, docteur, je vais vous mandater pour examiner le corps et tenter de trouver une explication à cette absence de main.
À l'examen, j'arrive à la conclusion que cette double amputation a eu lieu post-mortem. La seule explication, monsieur le procureur, est que les chiens ont dévoré les mains de leur maître après sa mort. Alors, le procureur fait venir un vétérinaire. J'ai certaines races de chiens, c'est une manière de tenter de réveiller, hein, de réveiller leur maître. Et les chats aussi s'attaquent aux cadavres en mâchonnant les zones cartilagineuses comme les oreilles et le nez. Bon, ils ne font jamais plus de dégâts et se laissent mourir de faim plutôt que de manger de l'humain. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxo, Les morts ont la parole, aux éditions Keltz. Et c'est avec lui, bien sûr, que je la débriefe. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu dire si elle était déjà morte quand il l'a jetée au cochon, comme le dit le fermier, ou si elle était vivante quand il l'a mis dans la porcherie. Mais il y a quand même eu une suite judiciaire. Vous le dites pas, ça, rassurez-moi.
Il y a une suite judiciaire, oui. En fait, à partir du moment où le bonhomme a été reconnu comme étant dément, en accès de démence au moment où les faits ont été commis, d'office, il n'est plus condamnable. C'est une circonstance d'excuse. Et il a donc été placé en internement psychiatrique, qui n'a pas duré longtemps, le temps qu'il descende de cette bouffée délirante, pour ensuite recouvrer une vie normale. Mais dans la mesure où on a estimé qu'il n'était pas en état de conscience parfaite au moment où il trouve sa femme morte, hein, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les médecins ont conclu, il n'était pas condamnable.
Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Pour examiner le contenu de l'estomac de ce cochon, intuitivement, moi j'aurais fait appel à un vétérinaire. Oui. Est-ce qu'il est normal que ce soit un médecin légiste ?
Non, pas tout à fait. Mais le procureur m'a dit, mais t'es quand même bien capable d'ouvrir l'estomac d'un cochon, puisque c'est la seule chose qu'il avait à faire.
C'est l'incision, quoi.
C'est l'incision. L'incision, les chercheurs dans l'estomac, c'est pas une autopsie du cochon. Il se serait agi de faire une autopsie du cochon, c'est clair, je suis pas compétent, et qu'il aurait fallu alors un vétérinaire légiste, ça existe.
J'étais surpris d'apprendre que le cochon qui se nourrit de gland, nous dit-on, enfin, entre autres, est carnivore.
Il est omnivore. Il mange de tout. Et il n'est pas rare de voir, effectivement, dans les forêts, par exemple, des cadavres qui ont été mangés par les sangliers, et il les mange en dispersant les ossements. Ce qui veut dire qu'on retrouve, j'ai eu le cas d'un gars dont on a retrouvé la tête bien plus tard, et elle était à plus de 50 mètres du corps, elle avait juste été déplacée par les sangliers, qui ne l'avaient pas détruite, dans ce cas-ci, qui avaient mangé tout ce qu'il y avait à manger de tissu.
Et laissé les ossements.
Et ils avaient laissé les ossements. Pas totalement intact, parce qu'on voit quand même qu'il y a des griffes de dents qui se fondent sur l'os, mais qui ne l'altèrent pas profondément.
Vous avez entendu parler, je suppose, de l'histoire du petit Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, dont on a retrouvé plusieurs mois plus tard le crâne, puis quelques ossements dans une forêt. Donc l'hypothèse existe qu'il était dévoré par des sangliers et les morceaux de son corps, au fond, répartis alentour. Parce que le sanglier, il mange pas le cadavre sur place.
Il se déplace pour ne pas être gêné par ses congénères et garder ce qu'il a acquis pour lui.
Jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut retrouver des restes identifiables dans l'estomac d'un cochon ?
Ben ça va très vite, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait abattre. C'est parce que une fois que vous le faites abattre, vous n'avez plus de sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est ce que l'estomac sécrète chez l'humain comme chez le mammifère.
Et c'est dissous, ça.
ça dissout. Ça dissout très très bien, très très vite, et il faut en grosso modo 2 heures pour qu'un estomac soit vide. Donc, il fallait aller vite pour être sûr de trouver encore des morceaux, non pas nécessairement identifiables, mais sur lesquels on pouvait encore travailler.
Est-ce que vous n'avez pas peur que ça inspire des criminels?
Eh bien non, parce que ça existe dans d'autres films, et dans des films, je pense à Rambo, le dernier des Rambo, vous voyez une scène comme ça, où quelqu'un de vivant est en train de se faire bouffer par un cochon. Dans un autre film qui s'appelle Hannibal, vous voyez aussi que l'on jette un corps au cochon, de la même manière que dans le précédent film. Donc c'est quelque chose qui est déjà largement répandu, largement connu.
Mais j'ai raconté hein,
oui,
des histoires comme ça. Ouais. Ça ne marche pas toujours.
Ça marche pas
des
toujours.
Des fois, il reste un petit morceau, il reste un vêtement, voilà. Il reste...
Tout à fait. Donc ça marche pas toujours, mais quand ça marche, eh bien, il s'agit d'arriver vite pour pouvoir encore tirer des conclusions.
En fin d'histoire, dont vous évoquez d'autres animaux, dont le sanglier, dont on a parlé, le chien. Alors le chien, c'est rassurant, il ne nous mordrait que pour nous réveiller.
Oui, pour réveiller. Et aussi à cause, disent le vétérinaire, d'une angoisse, par rapport à cette odeur qu'un corps dégage, qui est l'odeur de mort, hein, par rapport au maître. Donc il serait dans une situation d'angoisse, sentant quelque chose qui se passe et qui ne va pas correctement par rapport à son maître, tenter de le réveiller.
Le chat, ça j'étais surpris.
Oui.
Le chat peut dévorer les oreilles et le nez.
Il s'attaque au cartilage. J'ai souvent constaté ça. Rarement autre chose. Chaque fois que je vois un chat qui a commencé à consommer, entre guillemets, parce qu'il consomme pas vraiment son maître, c'est des zones cartilagineuses comme le nez et les oreilles. Des zones un peu saillantes qu'il est facile de saisir dans sa petite bouche aussi. Hein. Il n'a pas une grande gueule qui lui permettrait d'attraper la mâchoire facilement. Donc il s'attaque à des structures qui lui sont accessibles.
Le procureur de la République vous demande d'aller sur place. C'est systématique.
Oui. Et on aime bien ça, que ce soit systématique.
C'est systématique en Belgique.
En Belgique, ça l'est, en France aussi. Ça s'appelle en France, on parle de descente, eux, ils parlent de levée de corps France. Mais c'est la même chose. On va voir sur place. Et c'est très important d'aller voir sur place. Il faut s'imprégner de l'ambiance, s'imprégner des lieux, et peut-être même remarquer dans l'environnement des choses qu'on n'aurait pas remarquées si on n'y était pas allé, forcément.
Donc, systématiquement, on se déplace
systématiquement
sur les lieux.
Oui.
Il n'y a jamais de cadavre qui vous arrive dans une housse en plastique que vous n'avez pas vu in situ.
Ça peut se faire. Ça, c'est la décision du procureur. Si le procureur décide qu'on va m'amener le cadavre à l'Institut de médecine légale, ben c'est lui qui décide. Je ne peux pas aller contre son avis.
Vous ne pouvez pas lui dire non, je vais y aller.
J'ai le devoir de lui dire, écoutez, c'est mieux que je le vois sur place, mais il a la possibilité, lui, parce que c'est lui le patron, de me dire non, il n'y a pas question, je vous l'amène.
Mais ça implique beaucoup de temps, ça.
Ah oui, énormément.
Aller sur place, je ne sais pas comment c'est en Belgique, en France, maintenant la médecine légale se fait au stade régional. Donc le type, il est à Strasbourg. S'il faut qu'il aille au fin fond de la Lorraine, il en a pour 2 heures de route.
Chez nous aussi, puisque la médecine légale, chez nous, elle n'est pas régionale, mais elle est plutôt provinciale. Mmh. C'est par province. Et donc je couvre la province de Liège et du Luxembourg. Et le diamètre de la province fait quelque chose comme 150 kilomètres.
Et vous y allez seul?
Oui.
Jamais avec quelqu'un?
Parfois avec des stagiaires. Stagiaires en médecine, stagiaires en criminologie, qui nous accompagnent pour découvrir le métier.
L'autopsie, vous n'êtes pas seul?
Jamais, ça je ne veux pas. Et le protocole européen, d'ailleurs, demande à ce qu'on soit 2, aussi bien en France qu'en Belgique, c'est européen.
2 médecins?
2 médecins légistes, pour faire l'autopsie. Pourquoi? Simplement parce que je pense qu'il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans 1. Ça, c'est une première chose. Et en autopsie, il vaut mieux ne rien oublier, par exemple, hein. Donc, on y pense à 2 plutôt que d'y penser tout seul. Et puis, imaginez qu'il y ait une influence qui doit s'exercer sur le médecin, qui puisse s'exercer sur le médecin de la part d'un tiers qui serait à la cause et qui serait peut-être l'auteur. C'est plus difficile d'influer sur 2 médecins que d'influer sur un seul. Hein. Donc, plus on est garant d'une certaine neutralité par rapport à l'objet étudié.
Moi, j'ai assisté à des autopsies. Il y a aussi un garçon de laboratoire ou une fille de laboratoire.
Oui. Il y a aussi des gens qui viennent, ce sont les gens de laboratoire, comme vous dites, hein, essentiellement pour relever des empreintes digitales, prendre des photos du corps en toutes les phases de l'autopsie, et aussi examiner les vêtements et les prélever, les reprendre pour un examen ultérieur. Ça, c'est ce qu'ils font chez nous, oui.
Et il y a un gendarme ou un policier
qui fait partie de l'enquête, toujours, de façon à prendre des notes. Alors, ce qu'on espère, c'est que les magistrats vont revenir. Ils venaient avant, le procureur de la République, le juge d'instruction, le greffier du juge d'instruction était là, et c'était l'occasion de leur montrer des visus les lésions qu'on avait observées. Il n'y a rien à faire. Le fait de voir les choses les rend beaucoup plus réelles et permet, je pense, d'avoir une meilleure approche du dossier. C'est pour ça que je regrette aujourd'hui que les magistrats ne soient plus là, parce que je trouve que c'est une perte.
C'est une perte de temps aussi pour moi.
C'est une perte de temps, oui.
Ça,
c'est
dans des métiers où ils sont souvent débordés.
Europe 1, on de la traconte.
Philippe et Nathalie sont mariés depuis des années.
Ah ben c'est un joli couple, hein. Ils ont l'air heureux, hein, ça. On peut pas dire.
Ils habitent une petite maison au bord d'un canal. Ambiance, l'homme du Picardie. Les vieux savent de quoi je parle. Les jeunes, renseignez-vous. Enfin, c'était un feuilleton culte de la fin des années 60. Un feuilleton dont le théâtre était les canons et les pénis. Et donc, Philippe et Nathalie habitent au bord du canal. Et Philippe adore voir passer les pénis. Bon, mais ça m'occupe, hein. Et puis ça m'apaise. Quand je regarde passer les pénis, je sais que je suis comme une vache qui voit passer les trains, hein. Mais je m'en fiche. J'aime ça. Le reste du temps, Philippe travaille dans les transports en commun. Il s'occupe de gérer les plaintes. Toute la journée, il entend des gens qui se plaignent. Mon abonnement ne passe plus. Le conducteur du bus a été désagréable. Il a freiné trop brusquement. Il m'a fait tomber, etc., etc. Alors les péniches, ça le calme. Nathalie, elle, est comptable. Elle travaille pour une petite boîte qui a grandi trop vite, victime de son succès. Du coup, sa société l'autorise à faire du télétravail. Un jour, justement, elle rentre à la maison pour travailler chez elle. Elle s'est faite toute jolie, toute coquette. Et elle trouve Philippe déjà assis sur la terrasse à regarder les bateaux, un verre de vin rouge à la main, comme tous les jours. T'es déjà là ?
Ben oui, je travaille à la maison cet après-midi.
Et les heures passent. Depuis sa terrasse, Philippe voit ses voisins rentrer.
Ça va ? Ouais, tout va bien. Bonne soirée.
C'est la dernière fois que les voisins voient Philippe vivant. À présent, Philippe est mort. Ce matin, en se levant, Nathalie dit qu'elle l'a découvert pendu. Elle a appelé les secours, mais trop tard. Heureusement, ils n'ont touché à rien et ils l'ont laissé pendu. Combien de fois n'ai-je vu des scènes de crime complètement ravagées par les interventions des services de secours. Et le procureur m'appelle.
Allô, docteur ? Dites-moi, j'ai un pendu pour vous. Rien de spécial, vous savez, mais par acquis de conscience, j'aimerais que vous alliez voir.
J'arrive sur place. La vue sur le canal bordé d'arbres est superbe. J'entre, je note que la maison est bien tenue et je descends à la cave où se trouve le corps de Philippe. Il est en pendaison qu'on appelle incomplète. Ça signifie qu'une partie de son corps touche encore le sol. Dans le cas de Philippe, ce sont les pieds qui touchent par terre et ses genoux sont fléchis. Ça vous paraît sans doute incompréhensible, hein? Mais sachez que c'est le cas dans 90% des suicides par pendaison. Car il existe quand même un instinct de survie. Quand on se sent partir, on appuie sur ses jambes et on pense qu'on est sauvé. C'est vrai, mais pas tout à fait. Quand le cerveau est privé d'oxygène à cause de l'arrêt circulatoire provoqué par la pression de la corde à hauteur du cou, et donc des artères carotides qui amènent le sang depuis l'aorte vers le cerveau, les zones cérébrales s'arrêtent progressivement de fonctionner. La personne reste consciente, mais elle n'est plus capable de bouger. Le retour en arrière n'est plus possible. À l'Institut médico-légal, on a une cassette vidéo qui montre un homme qui se filme en train de se pendre. Une pendaison dite érotique, un fantasme qui associe plaisir sexuel et pendaison. Notre homme va un peu plus loin, puisqu'en plus, il porte un slip de femme dans lequel il a glissé des roses avec épines. Et donc, il se filme. Dans la caravane au fond du jardin où il se livrait à ce fantasme, on a trouvé de nombreuses cassettes vidéo qui le montrent dans des scènes similaires de pendaison érotique. Mais cette fois-ci, il s'est raté et il s'est pendu. Je vous explique comment il a fait. Il a placé sa corde entre le fauteuil sur lequel il était assis et la cloison de la caravane. Et il s'est progressivement laissé glisser pour augmenter la pression de la corde au niveau du cou. Et puis, à un moment donné, on voit sur la cassette vidéo son regard qui panique. Il est allé trop loin. Il ne peut plus bouger. Et il meurt. On le voit sur la cassette. En pendaison incomplète. Et c'est donc ainsi que je découvre Philippe. Je commence par examiner son corps et puis je le déshabille. C'est toujours plus simple quand la personne est pendue plutôt que sur le sol. Je ne vois rien de suspect. On a une cyanose, on a des pétéchies, tous les signes de l'asphyxie. La cyanose, c'est une coloration bleutée du visage et du haut du thorax, témoin d'un excès de CO2 dans le sang, ce qui arrive quand on est privé d'oxygène. Et les pétéchies, ce sont de petits points rouges qui apparaissent essentiellement à hauteur des yeux et qui témoignent d'une augmentation de la pression veineuse qui fait péter toutes les petites veines. Les pétéchies apparaissent aussi chez des vivants, dans des efforts de vomissement par exemple, ou quand on pousse parce qu'on est constipé. Ça n'est donc pas un signe typique de la pendaison. Et puis je le dépends et je le couche au sol. C'est le moment périlleux. Il faut le retenir pour éviter une chute qui ferait apparaître d'autres lésions. Et c'est pas facile. Philippe est une pièce de 1,80 m pour 130 kg. Ensuite, je retire la corde et les vêtements du haut. Et c'est le moment le plus important de l'examen. Bien observer le sillon de pendaison. D'habitude, les sillons de pendaison sont obliques, vers le haut et vers l'arrière. Et ils sont alors incomplets. C'est-à-dire que la corde réalise ce qu'on appelle une anse de saut, qui fait pression sur les parties antérieures et latérales du cou, sans atteindre la région de la nuque. Et c'est le cas de Philippe. Et toutes ces lésions remontent au moment où il était encore vivant. Première conclusion donc, Philippe était vivant au moment de la pendaison. Mais il y a un problème. Le sillon est bien plus large que la corde sur le côté du cou. On dirait que la corde a glissé de bas en haut lors de la pendaison. J'ai jamais vu ça en pendaison incomplète quand les pieds touchent encore le sol. J'ai vu ça, mais en pendaison complète, quand les pieds touchent pas le sol. Or lui, ses pieds touchaient le sol. Donc il y a un problème. Et là, je lève la tête et je remarque que la corde est passée par-dessus un tuyau de chauffage qui est recouvert de plâtre et d'amiante. Et que ce plâtre a disparu sur une bonne profondeur. Il n'a pas été comprimé, comme on le voit souvent, mais arraché. Il y a des traces de ce plâtre sur la corde. Ce qui semble indiquer que Philippe a été attaché par le cou à la corde, qui a ensuite été passé par-dessus le tuyau, et qu'ensuite on l'a hissé en pendaison incomplète. Autrement dit, il ne s'est pas pendu. On l'a pendu. Et c'est pour ça que le sillon est si large sur le côté du cou. C'est dû au frottement de la corde qui a glissé sur le cou au moment où on a hissé Philippe. Donc c'est un meurtre. Et vu les circonstances, il n'y a pas d'autre suspect que sa femme, Nathalie.
Je suis d'accord avec vous, docteur, mais vous observerez que sa femme pèse 60 kilos et que lui en pesait 110.
Eh bien, monsieur le procureur, c'est qu'on a dû l'aider, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En attendant l'arrivée des troupes, j'examine le nœud. Quand on coupe une corde pour dépendre une victime, on le fait toujours à distance du nœud pour pouvoir le conserver. Et ce nœud-là, je n'en ai jamais vu de pareil. Alors, avec la permission du juge, j'envoie la photo du nœud par WhatsApp à un ami qui s'y connaît bien. Il fait du bateau.
Ah ben c'est un nœud qui est utilisé en batellerie, ça, sur les péniches, autrement dit.
Or, s'il regardait passer des péniches depuis sa terrasse, lui-même ne faisait pas de bateau. Qui donc a fait ce nœud ? Ensuite, je réalise l'autopsie. Ça se confirme, hein. Il était bien vivant quand il a été pendu. Et j'ajoute qu'il venait de manger. Le bol alimentaire est toujours dans l'estomac et assez peu digéré. Je pense que je pourrais vous donner tout le menu sans me tromper. Très intéressant, merci docteur. À part ça, est-ce qu'on a des signes de violence sur le corps ? Est-ce qu'on a essayé de l'assommer, par exemple ? Non, aucun signe de violence. Il n'a pas été assommé avant d'être pendu. En revanche, vu son poids, il est certain qu'il était inconscient au moment de la pendaison, puisqu'il a fallu le hisser. Et donc, il a probablement été endormi. Et donc, je prélève du sang, de l'urine, du foie, du rein et le contenu de l'estomac. Et j'envoie tout ça au laboratoire de toxicologie pour analyse. Et en attendant les résultats, en salle d'autopsie, j'analyse l'urine au moyen d'un système qu'on appelle immuno-enzymologique. Le résultat est sans appel. Il a consommé des benzodiazépines, hein. C'est un somnifère. Mais il faudra attendre le retour de toxicologie pour en connaître le dosage. Et le laboratoire confirme la présence dans l'estomac de Philippe de l'ormétazépam, à une dose très importante, largement suffisante pour endormir un homme de son poids. Et comme on en a trouvé dans l'estomac, eh bien, on peut conclure que c'est lors du repas que Philippe a reçu ses benzodiazépines. Donc, on l'a endormi pendant le repas. On l'a transporté sans le blesser à la cave. Sa tête a été placée dans l'anse de seau d'une corde, laquelle a été passée au-dessus d'un tuyau de chauffage sur lequel elle a frotté quand on a hissé Philippe. L'enquête ne tarde pas à montrer que la femme de Philippe, Nathalie, avait un amant, un pénichier. C'est lui qui l'a aidé à se débarrasser de son mari. Et le mobile ? Classique, banal. Le cul et les écus, comme on dit chez nous. Autrement dit, le sexe et l'argent. Et on delatte. Elle est pas mal, cette expression, non ? C'est quand même mieux que ton expression habituelle, l'argent et le cul. Là, c'est plus classieux, non ? Le cul et les écus. Je suis d'accord. L'expression me plaît bien. Je la resservirai. Pour terminer, vous noterez que sans l'intervention du docteur Boxo, cet assassinat passait complètement à la trappe. J'ai tiré cette histoire du livre de Philippe Boxo aux éditions Keynes, et c'est avec lui, bien sûr, que je la débriefe. Alors je pense que tous les gens qui ont écouté cette histoire ont été très surpris d'apprendre que 90% des pendaisons, dites-vous, sont incomplètes. C'est-à-dire, en gros, que les pieds du pendu touchent le sol. Mmh. Vous confirmez ?
Ah, tout à fait, oui. C'est connu depuis très longtemps. Le médecin légiste qui a mis ça au point, qu'il a révélé au grand jour, s'appelle Brouardel, Paul Brouardel. Il est français, le médecin légiste français, et il l'écrit dans le tout premier livre qu'on ait écrit en français sur la pendaison, le tout premier livre historique et scientifique sur la pendaison, en 1896. Donc c'est déjà très ancien. Et à l'intérieur de ce livre, il fait des dessins. Il dessine des pendaisons. Aucune des pendaisons qu'il dessine n'est une pendaison complète, c'est-à-dire une pendaison où les pieds ne touchent pas le sol. Donc c'est connu depuis très très longtemps. C'est, pour nous, c'est pas une surprise parce qu'on le sait évidemment, hein. Et on le sait depuis au moins la fin du 19e siècle, quoi.
Ça résulte de quoi ? Du fait que les gens ne trouvent pas une poutre à laquelle se pendre, ou finalement d'un message qui est compliqué, c'est je veux me pendre mais pas vraiment, et si on me trouvait vivant, ça serait pas plus mal, j'aurais lancé un signal d'alerte.
Voilà. C'est aussi ce que je crois. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que vous pouvez toujours faire demi-tour. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dans l'idée. Vous vous pendez, mais vos pieds touchent bien par terre, donc il y a moyen de pousser sur tes pieds, de façon à se remettre en station debout, dégager la corde, on n'est plus en pendaison. C'est l'idée, et je pense que pas mal de gens arrêtent la pendaison à un moment donné, parce qu'il y a un sursaut par rapport à cette envie de vivre qui est la nôtre, par rapport à cet instinct de survie. C'est ce qui fait que je pense que beaucoup de pendaisons sont en fait ratées et que celles que je vois, ce sont juste celles qui ont réussi. Alors, elles ont réussi peut-être contre la volonté finale de celui qui les a qui l'a réalisé, parce que
il se fait piéger,
il peut se faire piéger, tout à fait. L'idée, c'est que quand le cerveau n'est plus abreuvé en oxygène, vous pouvez encore rester conscient mais incapable de bouger. C'est des choses que l'on voit notamment dans l'intoxication aussi au monoxyde de carbone. Et donc, je le décris, et vous l'avez très bien raconté, vous racontez super bien l'histoire, je le dis en passant. J'ai beaucoup aimé. Vous l'avez très bien raconté avec ce monsieur qui se fait une pendaison érotique et qui se rate. Il n'avait aucune raison de se rater. Et on le voit, on voit dans ses yeux que il est allé trop loin, il a glissé, il s'est plus récupéré. Et on voit cette angoisse dans ses yeux. C'est une vidéo que j'ai produite au médecin légiste français lors de nos réunions et qui est vraiment très impressionnante pour nous tous.
Ça rappelle le piège du jeu du foulard.
C'est ça.
Aussi. C'est-à-dire ces adolescents qui, pour des raisons érotiques, parce que pourquoi ça favorise quoi, l'érection?
Ah, pas du tout. C'est un fantasme, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'érection plus importante. C'est cette fameuse idée qui date d'il y a très longtemps, selon laquelle le pendu a une érection. Hier, j'étais sur un plateau télé, ça m'a encore été sorti. Ce n'est pas vrai. On y a pensé parce que il y a une éjaculation involontaire qui se fait sur un corps pendu. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il est pendu, justement, il est en position verticale, et que, selon la loi de la gravité, quand les vésicules séminales, celles qui contiennent le sperme, se vident, eh bien, elles se vident naturellement vers l'extérieur. Alors que sur un cadavre qui est couché, elles vont se vider, mais le sperme va rester à l'intérieur des voies urinaires. Il ne pourra pas sortir parce qu'il n'y a pas cette gravité qui lui permet de s'exprimer à l'extérieur. Et donc, on en a déduit qu'on bandait une dernière fois. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est un phénomène physiologique, mais qui n'a rien à voir avec l'érection.
Mais alors, qu'apporte dans ces pendaisons érotiques et dans le jeu du foulard le fait de serrer le cou comme ça pour arriver à quelque chose qui est proche de l'étouffement et puis on arrête? Ça apporte quoi?
Alors, dans le cas du jeu du foulard, ça apporte une espèce d'expérience. Je vais mourir, mais je meurs pas.
D'accord. Il y a de l'érotisme là-dedans.
Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Tandis que dans la pendaison érotique, il y a vraiment de l'érotisme. Il y a le fantasme. Il y a à Londres un club de pendus, donc de gens dont le fantasme c'est ça et qui ont une pratique sexuelle liée à la pendaison. Ça existe.
Mamma mia. Alors, ce qui m'a surpris une fois de plus, c'est que c'est vous, médecin légiste, qui faites la constatation que le plâtre au niveau du tuyau de chauffage a été arraché au lieu d'être compressé. Ce qui suppose donc qu'on a fait passer la corde et qu'on a tiré dessus. C'est votre boulot, ça? Ça dépasse pas vos compétences?
Non. En fait, le boulot du médecin légiste, c'est d'observer la scène de crime et de vérifier aussi s'il n'y a rien d'étrange. C'est pour ça que j'aime bien aller sur place, c'est pour ça qu'il faut aller sur place. Sinon, c'est un pendu banal. Il y a effectivement une petite trace là qui est un peu inquiétante, un ripage de la corde dans le cou qui n'est pas classique chez les pendaisons incomplets, comme vous l'avez très bien raconté, mais ce n'est pas suffisant pour fonder une conviction. Et donc quand je vois cette trace de ripage, je me pose des questions et je vais vérifier la corde. Alors,
mais à ce moment-là, vous appelez un mec du labo, parce que quelque part, c'est une constatation aussi de laboratoire de police scientifique. Ça.
Je le constate, et puis je préviens le procureur qui, lui, désigne le labo. Le labo vient, et lui, effectivement, va faire des constatations avec... il est assermenté, je le suis aussi, donc je peux faire cette constatation. Mais lui est policier, il va prendre les photos, il va faire le prélèvement sur la corde, on va analyser le plâtre pour vérifier que c'est bien le même que celui, on le sait, il faut quand même porter la preuve, le même que celui du tuyau. Donc il y a à ce moment-là tout un arsenal qui se met en branle, qui n'est pas présent quand je démarre. Parce que quand je démarre, l'idée du procureur du roi, dans ce cas-ci, on a beaucoup de pendus. Hein. L'idée du procureur du roi, dans ce cas-ci, c'est de dire, écoute, Philippe, on peut voir, c'est un pendu classique, quoi, mais allez, par acquis de conscience, va voir. D'accord. Donc il déclenche pas tout l'arsenal, parce qu'il se dit, c'est banal.
Mais cette histoire de plâtre figure dans votre rapport d'autopsie.
Oui.
Comme
oui.
Une observation que vous avez faite, mais qui est un peu au-delà.
Et examen des lieux.
D'accord.
J'ai une rubrique examen des lieux, dans laquelle je ne décris pas tout, mais je décris ce qui est intéressant. Et notamment, quand j'ai un pendu, je dois vérifier s'il y a à proximité un système, quel qu'il soit, tabouret, chaise, escabeau, échelle, qui lui permet d'atteindre l'endroit où il va passer la corde, ou même où il va la fixer, parce que c'est toujours en hauteur, évidemment. Donc c'est un élément qui doit faire partie de mon examen. Il faut que je puisse vérifier qu'il a été capable d'atteindre les niveaux où passe la corde.
Vous racontez l'autopsie. On peut vraiment savoir ce qu'a mangé le mort au moment de l'autopsie?
Oui, je l'ai même découvert. Un monsieur est mort très rapidement après avoir mangé, c'était le repas du soir.
Oui.
C'était a priori un infarctus. On l'a enterré. On l'a déterré 6 mois plus tard.
Oui.
6 mois plus tard, dans l'estomac, je pus encore décrire tout ce qu'il avait mangé.
On voit quoi ?
On voit
le steak haché.
Oui, on voit les aliments mastiqués, bien sûr, hein,
oui.
En partie digérés parce que l'acide gastrique a agi. Mais on voit les aliments et ils sont encore, pour certains, totalement identifiables. Des morceaux de carottes, vous allez les retrouver. Des petits pois, vous allez les retrouver. Des morceaux de steak, vous allez le voir. Pour les patates et les frites, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, ces éléments-là, vous les avez.
Parce que moi, j'ai fait une autopsie avec le médecin légiste français, le docteur Sapané.
Oui, Michel Sapané.
De Poitiers. Lui prétend qu'avec une cuillère, il le met sous le nez. Et il sent ce qu'a mangé la personne.
Il a raison.
Ouais.
Il a raison. Mais c'est dégoûtant. Donc si je peux identifier à la vue, je préfère.
Alors j'adore évidemment, parce que les gens qui ont l'habitude de mes histoires disent que je dis souvent que les deux moteurs du crime, c'est l'argent et le cul. Si on écarte évidemment la maladie psychiatrique,
bien sûr,
qui est l'un des moteurs, mais sinon c'est l'argent ou le cul. Et vous vous dites le cul et les écus. Où est-ce que vous avez trouvé ça?
C'est une expression qui date, vous savez. J'étais tout gosse et je regardais la télévision avec mes parents. Et il y a un bonhomme qu'on avait arrêté, il s'appelait Dédé d'Anvers. C'était un proxénète. Et à la télévision, il a lâché, oh, vous savez, ce qui fait tourner le monde, c'est le cul et les écus. Et j'ai retenu.
Ouais.
Et j'ai retenu et ça, je l'ai réentendu. Ça a été dans la bouche d'autres encore après. Mais le premier chez qui je l'ai entendu, c'est lui. Et je l'ai mis dans mon bouquin, parce que je l'ai cité d'ailleurs, j'ai dit que c'était de Dédé oui. d'Anvers, parce que j'ai adoré cette expression. J'étais tout gosse et j'ai toujours retenu.
Le cul et les écus, si vous m'autorisez, je le reprendrai aussi.
Je vous la donne avec plaisir.
Vous me la donnez, cette expression de Dédé d'Anvers. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxo aux éditions Keynes, Les morts ont la parole.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Philippe Boxo, médecin légiste et auteur de best-seller dont ce livre « Les morts ont la parole » revient aujourd'hui, mercredi, dans On de la Traconte pour débriefer deux nouvelles histoires. Donc, on vous donne rendez-vous à partir de 14h sur Europe 1. À suivre, Pascal Pro et vous, émission à redécouvrir. Il avait reçu ce mardi Maître Antoine Réglé, qui est venu nous parler de son livre « Drame de la route, combat contre l'injustice », dans lequel il propose notamment de faire payer une partie des dommages et intérêts aux personnes qui conduisent sous stupéfiants ou alcool. Voilà, il a été aussi question de Céline Dion ou encore de la nouvelle campagne de prévention des violences éducatives, à savoir fessées, gifles, tapes sur les mains, claques derrière la tête. Mais on va se replonger dans l'émission juste après Raphaël, qui sera bientôt papa pour la 3e fois. Voici Heure Sup.
Les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradée. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup. Le sang à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, si tu veux. gris dégradé. Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer, pour de bon lance-flammes. Moi, moi, je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol.
Il est auteur, compositeur, interprète et même écrivain. C'était Raphaël sur Europe 1 avec un extrait de son nouvel album « Une autre vie ». On vient d'écouter donc un extrait « Heure sup ». Les heures passent et voici venu le moment de retrouver Pascal Pro et vous en nouvelle diffusion, l'émission qui vous donne la parole en direct chaque jour de la semaine entre 11h et 13h sur Europe 1. Et voici donc la séance de rattrapage, l'émission de ce mardi.
C'est Géraldine qui est avec nous.
Bonjour,
bonjour
Pascal,
chère
bonjour
Géraldine Hamon, puisque les vacances se sont terminées,
oui.
Vous le savez, depuis hier. C'est également Fabrice qui sera à la console.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour Pascal.
Bonjour Fabrice, de retour de Bretagne.
Vous étions bien à Morlaix, n'est-ce pas Géraldine?
Je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu me racontes?
Ça s'appelle un vent. Ça s'appelle un vent.
Ah oui, effectivement.
Laurent Tessier, lui, ne part pas en vacances.
Bonjour, présent.
Et il est toujours là depuis le 28 août. Sans défaillir. Comment ?
Oui, effectivement.
Oui, depuis le 8 mars.
Voilà,
bien sûr. Vous êtes là tout le temps et toujours avec nous.
Toujours présent.
Et dans notre cœur.
Ah, c'est gentil.
Depuis le départ de cette émission. L'excellent. L'excellent Olivier Guédec. Qui se tient les côtes toujours.
Ça
qui rit pour un rien.
Pardon, qu'est-ce que vous avez dit ?
Qui rit pour un rien. Mais c'est bien.
Qui rit pour un rien. Ça commence comme ça l'émission. Vous trompez de date déjà pour Laurent. Vous croyez qu'il est là depuis un an. Ensuite, moi, vous me dites qui rit pour rien.
Nous sommes colocataires.
Vous vous souvenez de Kiri le clown ?
Kiri le clown ?
Oui.
Ah non, ça m'a échappé.
Ça vous dit rien, Kiri le clown ? Kiri le clown, c'était dans les années 60-70,
ah oui.
C'était un petit feuilleton.
Oui, bah, je ne m'attendais pas aux années 2020, vous inquiétez pas.
Un petit feuilleton qui passait Kiri le clown et qui amusait. Il y avait quand on était enfant, Aglaé et Sidonie, oui. La maison de Toutou et Kiri le clown. Voilà, c'était les trois trucs qui... Voilà, c'est ça. C'est ça.
Trotte, trotte, ma jument, voles-tu à des ailes ?
C'est l'époque, hein.
C'était
absolument pas prévu. Qui rit le clown ?
Ah, mais c'était sur l'ORTF !
Ouais, en noir et blanc à l'époque. Oui, c'était l'ORTF, qui rit le clown.
Ah oui, ça date.
Il y avait qui rit le clown, je répète, la maison de Toutou. Vous n'avez pas connu la maison de Toutou ?
Mais non. Bah, excusez-moi. On est jeunes.
C'était génial la maison de Toutou.
Et qu'est-ce que c'était la maison de Toutou? Bah, c'est un chien, j'imagine.
Ouais, oui, c'était pareil. Un petit truc pour les enfants. Il y avait Bonne Nuit les Petits, il y avait Nounours.
Ah, Bonne Nuit les Petits, je connais.
Bonne Nuit les Petits,
bien sûr.
Voilà, c'était les quatre trucs qui existaient.
Non, mais ce début d'émission, c'est n'importe quoi.
Ce début d'émission est absolument n'importe quoi. Vous êtes sur Europe 1, je tiens à le dire, c'est le plus important. Mais c'est n'importe quoi. Bon, Florian Carassou-Maillan.
Bonjour Pascal.
Tout va bien ?
Tout va très bien.
Pas de nouvelles du scooter ?
Non, toujours pas. Toujours
vous avez un nouvel appartement ?
J'ai un nouvel appartement.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Céline Dion pose en couverture de Vogue France, un grand retour médiatique avec un long entretien. Le titre, le grand retour de Céline Dion. Elle apparaît en shorty, vêtue d'une large chemise blanche. C'est quoi un shorty ? Vous savez ce que c'est un shorty ?
C'est un petit short, ça.
La chanteuse se confie sur son état de santé près de 2 ans après avoir été diagnostiquée d'un syndrome de la personne raide. La lutte contre la maladie est un combat de chaque instant. 5 jours par semaine, je suis une thérapie athlétique, physique et vocale. C'est la condition avec laquelle je dois apprendre à vivre maintenant. Et en arrêtant de me questionner, je veux être la meilleure de moi-même. Mon but est de revoir la Tour Eiffel, dit-elle. Je voudrais qu'on écoute Céline Dion. C'était le 8 décembre 2022 sur les réseaux sociaux.
J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ 1 personne sur 1 million. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donne le courage et l'espoir de continuer.
C'est toujours émouvant, évidemment, d'écouter Céline Dion. On est avec Thierry, qui est gestionnaire de site. Bonjour Thierry, et je ne sais pas pourquoi, mais cette couverture ne vous convient pas. Bonjour.
Bonjour Pascal. Ben, elle ne me convient pas. C'est peut-être pas le terme, mais moi ça me gêne un petit peu. Vous avez Céline Dion, vous avez dans un autre domaine Florence Foresti, c'est des quinquas, des stars. Et j'ai l'impression que pour qu'on parle d'elle, pour qu'elle continue à exister, il faut qu'elle pose à poil, quoi. À moitié à poil.
Mais elle n'est pas du voilà. tout à poil. Dire...
Enfin, elle n'est pas encore mise qui non plus. Hein.
Elle n'est pas du tout.
Vous prenez la photo de Florence Foresti pour son dernier spectacle. C'est exactement la même pose que Céline Dion, quasiment. À part qu'il y en a une qui a allongé au pied de vous.
Alors franchement, écoutez, là, vraiment, vous êtes pudibon.
Regardez, pourquoi
vous êtes
elle pose comme ça alors
la pudeur.
Non, pourquoi? Alors je sais, Pascal, l'adoration que vous avez pour Céline Dion, donc ça va être compliqué d'aller contre vous.
Mais non, écoutez, franchement, il n'y a rien de choquant, écoutez.
Mais j'ai pas dit que j'ai été choqué.
Bah oui, mais pourquoi vous dites, vous dites quoi?
Parce que,
vous dites qu'il faut qu'elle se monte à poil pour qu'on parle d'elle, c'est ce que vous dites. C'est pas très classe de dire ça quand même. La chemise est fermée. Oui.
Elle a une main sur le sein pour se cacher. Je veux dire, Céline Dion, elle est connue autrement que pour des poses comme ça. C'est une chanteuse, c'est une très grande chanteuse, une immense chanteuse.
Elle est un peu sexy dans cette photo. Moi, ça me... Écoutez-moi,
elle a besoin de ça.
Et de toute façon, par définition, cette émission, c'est pour échanger avec des gens qui ont des avis contraires ou différents ou que sais-je.
La preuve, c'est que tant mieux, ça fait parler d'elle. Mais moi, je préfère qu'on parle d'elle.
Mais c'est pas pour ça, en fait.
Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
On parle d'elle parce qu'on a de ses nouvelles. On parle pas d'elle parce que.
Elle peut donner de ses nouvelles dans une pose autre que celle-ci. En fait, je sais pas, moi, je suis pas choqué par la pose.
On en aurait parlé de la même manière, Thierry.
Pas sûr.
Ah si,
Pourquoi une telle pose?
Mais je n'en sais rien, demandez-lui, parce que ça lui plaît, elle a le droit.
Mais j'ai pas dit qu'elle avait pas le droit.
Mais vous me demandez pourquoi, je vais pas appeler Céline Dion. Est-ce qu'on peut appeler Céline Dion, monsieur Boubouk?
Je la contacte sur Facebook tout de suite.
Voilà, est-ce qu'on va l'appeler?
Pascal, Florence Foresti, son dernier spectacle, la seule chose qu'on a parlé, c'est de son affiche. On n'a jamais parlé du contenu de son spectacle.
Non, Florence Foresti, elle a un talent.
La première chose qu'elle a...
Elle a un talent formidable.
Je dis que la première chose qu'elle a parlé quand elle est venue sur un plateau télé, c'est l'affiche de son spectacle.
Mais c'est quoi l'affiche? Je n'ai même pas vu l'affiche du spectacle de Foresti.
La même chose que Céline Dion, à part qu'elle a allongé.
Est-ce que vous pouvez me montrer, Géraldine?
Je cherche.
Parce que là, ça serait bien que vous...
Bah, dépêchez-vous.
Ah oui, deux secondes.
Les vacances, c'est fini.
Sarah, s'il vous plaît, regardez. Ah oui, boys, elle est allongée sur...
Elle est... Franchement. Écoutez, moi, d'abord, je vais vous dire, Céline Dion comme Florence Foresti, elles ont toutes les deux des talents tellement exceptionnels qu'elle n'a pas besoin de ça, mais elles ont envie de montrer une pose sexy.
Je ne critique pas le. Ouais, mais franchement, en plus, Céline Dion, je suis désolé. Alors, vous avez presque envie de lui donner à manger quand vous voyez la photo.
Dites pas ça. Non, ça, c'est pas gentil. C'est pas délicat, ça. Ça, c'est pas bien.
C'est ce que je constate. C'est pas que sur la photo.
Si, c'est pas très classe non plus. Franchement, je préfère... Non,
mais
c'est pas
fait... Non, mais moi, je suis pas d'accord.
C'est pour ça que vous êtes là.
Je ne suis pas choqué, c'est pas le terme.
On va écouter, Céline Dion. On va écouter pour nous réconcilier.
On est tous les deux d'accord.
Quelle est la chanson que vous préférez de Céline Dion?
Franchement, toutes celles qui ont été faites par Jean-Jacques Goldman, elles sont purement magnifiques.
On va écouter la nôtre, parce que nous, on a la nôtre. On a celle que nous plaît si près de moi.
Ah bah oui.
Et moi, je ne sais pas comment l'aimer.
Lui seul peut décider si on se parle d'amour ou d'amitié.
Offrir ma vie.
Allez,
plus haut. Il est si près de moi et moi je ne sais pas.
Allez.
Comment l'aimer. Elle est super cette chanson.
C'est la plus belle des chansons.
Mais évidemment. C'est la première qu'il avait chantée chez Michel Drucker.
Un ami.
Et longtemps qu'on ne l'a pas eu, Michel. Oui. On pourrait le rappeler.
Très bon écrivain.
Bon ben on va marquer une pause, Thierry. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en vacances peut-être?
Non, je travaille. Juste pour finir, juste une chose sur laquelle on sera complètement d'accord. Céline Dion, moi ce que je constate malheureusement, c'est que depuis le décès de son mari, la pauvre, elle a vraiment du mal et je pense que tout est lié. Et je pense que vraiment depuis le décès de son mari, ça a été.
On ne saura jamais la part psychologique dans les effets
c'est
sur le corps.
Mais c'est un constat que je fais qui est purement personnel.
Non, mais vous avez. D'abord, on constate tout ça dans nos vies puis dans la vie des autres.
Bien sûr.
Que des gens développent des maladies parfois après un choc. Et moi, personne n'est médecin sauf ceux qui ont fait médecine. C'est intéressant.
C'est une belle phrase. C'est
vraiment.
J'ai bien fait de faire quelques études pour prononcer une phrase comme ça. Mais on le constate. Voilà, on le constate et les effets.
Choc émotionnel.
Exactement, les chocs émotionnels. Vous êtes marié, Thierry?
Bien sûr.
Est-ce que vous faites parfois des photos de votre épouse un peu sexy?
Absolument pas. Non.
Jamais vous prenez une photo un peu osée qui resterait dans votre smartphone et que vous ne montrez pas à vos amis ou à vos enfants, etc.
D'abord, j'ai pas besoin d'avoir une photo de ma femme sexy sur mon smartphone, je l'ai en live. Donc pourquoi aller en mettre une sur mon smartphone?
Parce que pour immortaliser le moment. Je veux dire, ça peut arriver d'avoir de prendre sa femme dans des positions suggestives, ça peut arriver, pourquoi
pas.
C'est
curieux. Je sais pas ce que vous avez dans votre smartphone, mais en tout cas, moi j'ai pas ça. Si vous cherchez quelqu'un qui aille dans votre sens, avec moi c'est raté, Pascal. Pour vous rassurer dans la journée de voir votre femme. Juste un portrait de ma femme, juste sa tête me suffit. J'ai pas besoin d'avoir ses fesses.
Je vous dis pas de voir ses fesses.
Non, c'est bizarre de poser cette question. C'était pour vous rassurer, pour voir si vous étiez le seul à avoir ça.
Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pris.
Si vous posez la question à Olivier, je pense pas que la mémoire de son téléphone soit noyée par des photos.
Olivier, lui, il a pas de femme, donc il peut pas avoir de photos de femme. Il a des photos de femme inconnues puisqu'il a pas de femme. Mais par exemple, Géraldine, peut-être que votre compagnon vous a demandé quelques photos.
Ça devient une autre émission là quand même.
Je suis obligé de répondre. On peut pas envoyer la pub, voilà.
On va faire la pause, oui.
S'il vous plaît.
Bon, Fabrice Laffitte, tout va bien.
Oui, moi j'ai beaucoup de photos, mais.
Non, mais lui, il a des photos de.
C'est sur SXTech, si vous continuez, Pascal.
Non, pas du tout. Non, mais Fabrice, lui, il fait des photos de crêpes dentelles. Il est spécialiste photos de crêpes dentelles qu'il met dans son smartphone. Dentelles. Exactement. Bon, bah écoutez, merci à Thierry de ces.
Merci beaucoup. Pascal.
Mais non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien écouter, j'aime bien la vie des uns et des autres. J'aime bien poser des questions indiscrètes.
Qu'on soit d'accord, on est d'accord, c'est une immense artiste.
Voilà. Ah oui. Votre femme?
Ouais.
Non.
Vous êtes en forme.
Il est en forme. Il a dû voir une photo.
Allez.
Moi, je suis la muse de Laurent Tessier, moi.
La muse.
La muse, oui.
Ah, non, il a pris un mot. Il a la muse maintenant. Il est la muse. Et vous écrivez comment la muse? Dans le même mot?
Oh non, mais arrêtez. M-U-S-E.
M-U-S-E, la muse.
Merci à vous.
Benjamin Lecoge.
Oui, bonjour. Pascal.
Bonjour Benjamin, rédacteur en chef culture à Paris Match. Bon, vous avez lu cette interview de Céline Dion. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je suis vert que ce soit pas dans Paris Match, pour être très honnête. Ouais. Voilà, mais c'est formidable de la voir enfin prendre la parole, de la voir enfin s'exprimer sur toutes les questions qu'on se posait. Mmh. Après, on sent que c'est quelqu'un de fragile, qui est pas encore tiré d'affaire, mais qui pose la première pierre pour revenir.
D'ailleurs, c'est intéressant de savoir, le public ne connaît pas forcément comment un artiste négocie avec une publication plutôt qu'une autre publication. Pourquoi, à votre avis, ce choix de Vogue France plus que, effectivement, Paris Match ou Le Parisien ou un autre vecteur, d'ailleurs, d'information en France?
parce qu'elle a eu les bonnes propositions au bon moment, c'est-à-dire que tout le monde tournait autour, on sait qu'il y a une série qui arrive sur Amazon, tout le monde a fait des propositions à l'équipe de Céline Dion, là ils arrivent avec un shooting, un photographe, voilà, et puis elle a la maîtrise complète de la séance photo, elle a probablement dû choisir le photographe, elle a probablement dû choisir le styliste, les différentes tenues, donc cette liberté-là et le nombre de pages fait que l'équipe de
Céline Dion...